Toyota. Je te dépose pas juste devant le lycée, j'imagine.
Si.
C'est-à-dire ?
Juste devant la grille, s'il te plaît.
Bah, c'est nouveau, ça.
Mais maman, mes copines, elles vont être trop jalouses. T'as vu comment elle est stylée, notre voiture ?
Eh, comme ta mère.
Démarquez-vous avec style. Grâce à la Toyota EcoCross, à partir de 119 euros par mois, entretien inclus. Porte ouverte ce week-end.
Toyota
EcoCross Dynamique LLD 37 mois 30 000 km. Premier loyer 3 990 euros réservé aux particuliers pour toute commande entre les 3 et 18 janvier. Détails sur toyota.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Vous le voyez, cet homme svelte, élégant, qui vient d'entrer dans une librairie de la Weringerstrasse à Vienne. On est au tout début du XXe siècle. Il est très régulier, sa moustache fine et parfaitement taillée. Les cheveux sont peignés, les ongles limés, les chaussures brillantes. Il est tiré à quatre épingles, ce jeune homme, si j'ose l'expression. Le regard vif, passionné, bien qu'au fond des yeux, on puisse déceler une certaine mélancolie. Cet homme, vous l'aurez compris, c'est Stefan Zweig, que je me permettrai d'appeler Stefan Zweig. Pendant toute cette émission, comme on le fait ici en France, un certain sourire se dessine sur ses lèvres. Il est à la recherche toujours d'éditions rares, de manuscrits introuvables pour étoffer sa collection, des pages inédites des cahiers de Léonard, des manuscrits de Balzac, de Nietzsche ou de Goethe, des partitions de Brahms ou de Mozart. Rien ne l'enthousiasme davantage que lorsqu'au hasard de ses prospections, il tombe sur un de ses trésors. La simple flânerie était une joie, racontera-t-il plus tard dans Le Monde d'hier. La simple flânerie était une joie et en même temps une perpétuelle instruction. Tout vous était ouvert. On entrait chez un bouquiniste, on feuilletait les livres un quart d'heure sans que le marchand murmurât. Plus encore que la flânerie, Stéphane aime sa chère capitale, celle de son enfance et de sa jeunesse. C'est ici, dans la Vienne des Habsbourg, qu'il est né le 28 novembre 1881, dans une famille juive de la bourgeoisie viennoise. Son père, Moritz Zweig, est un homme d'affaires qui a fait fortune, principalement dans le textile. Sa mère, Ida Brettauer, est issue elle aussi d'une riche famille, une famille de banquiers. Le monde dans lequel Stéphane a grandi est le plus confortable qui soit, pas uniquement en raison de la protection particulière que peut procurer la fortune, mais aussi parce que la société viennoise se veut alors fixe, immuable. Quand j'essaie de trouver, pour l'époque qui a précédé la Première Guerre mondiale et dans laquelle j'ai été élevé, une formule qui la résume, écrira-t-il, je me flatte de l'avoir le plus heureusement rencontré quand je dis « c'était l'âge d'or de la sécurité, sécurité impériale du temps de François-Joseph ». Tout dans notre monarchie autrichienne vieille de près d'un millénaire, dira Stefan Zweig, semblait fondé sur la durée et l'État lui-même paraissait le suprême garant de cette pérennité. Nous sommes dans le monde d'avant, dans le monde d'hier, dans ce monde qui va s'effondrer, qui va se précipiter dans l'extraordinaire chaudron de la Première Guerre mondiale. Pour le moment, l'Autriche est plus que paisible, vous l'avez compris, et le jeune Zweig est un garçon plein d'énergie, mais aussi sensible, pudique. Vienne est la ville qu'il aime, il s'y plaît, il s'y sent bien, il passe, lorsqu'il est étudiant, des après-midi entiers à s'y promener, à discuter, à se prélasser dans les cafés, il fume de longues cigarettes, joue avec ses amis aux échecs, au billard, le soir on va au théâtre, à l'opéra, au concert, vous voyez cette vie extraordinaire. Et puis, la nuit, toujours cette fine et longue cigarette à la bouche, Stéphane se plonge dans Verlaine, dans Rimbaud, dans Schiller. Il lit énormément car il a bien l'intention de devenir écrivain. Il sera, il le sait lui déjà, il sera un grand écrivain. Il publie de premiers textes rapides, efficaces, toujours empreints d'une forme de lyrisme, de lyrisme un peu contenu, très maîtrisé, qui plus tard sera sa signature. Le subtil monde viennois dans lequel Stéphane évolue paraît solide, ça ne l'empêche pas parfois d'être vulnérable. Le sentiment du provisoire dominait mystérieusement ma vie, écrira-t-il. Il est porté, Zweig, par un étrange sentiment de l'urgence. Il veut tout découvrir et tout connaître, et c'est comme cela et pour cela qu'il parcourt l'Europe. Séjourne à Berlin, Bruxelles, Rome, Londres, Madrid, incapable de véritablement se fixer. Et voici qu'à 20 ans, il découvre Paris. Pour la première année de ma liberté conquise, je m'étais promis Paris pour récompense, écrira-t-il. Je savais que qui y avait passé une année de sa jeunesse en emportait pour la vie un souvenir de félicité. Ah, il va profiter de Paris et de tous les aspects, du quartier latin, le jeune Stéphane. Il a été initié à cette vie parisienne par ses lectures et sans cesse il y reviendra au fil de tout un tas de séjours. Peu à peu, il va délaisser ce quartier latin pour résider au Luxembourg, puis au Palais Royal où il a déniché un petit hôtel dont les fenêtres donnent sur les jardins, les magnifiques jardins du Palais Royal. Et entre deux voyages en Amérique, en Inde, c'est là qu'il prend ses habitudes. Il lit beaucoup, il discute jusqu'au bout de la nuit dans des bistrots, et il va se faire là beaucoup d'amis. Alors il fait des rencontres importantes, Rainer Maria Rilke, bien entendu, et Georges Duhamel, et Charles Vildrac, mais aussi, je serais presque tenté de dire, mais surtout Jules Romain. Cette amitié avec Jules Romain va jouer un rôle essentiel dans le regard que Zweig sera amené à porter sur les questions de guerre et de paix. Ça jouera également un rôle très important sur le regard qu'il portera sur la guerre elle-même, parce que vous avez bien compris que sous cette tranquillité, sous cette bonhomie, se joue le sort d'une civilisation. On est en train de s'approcher de la guerre. Nous vivons à l'époque d'un crépuscule. On peut dire qu'il reste maintenant assez peu de temps pour les valses viennoises. Suite de valse, nous sommes à l'acte 3 du Chevalier à la Rose de Richard Strauss et c'est Herbert Blomstedt qui dirigeait l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig.
Vous écoutez Radio Classique.
Avec Romain Rolland, Stefan Zweig a connu un véritable coup de foudre amical et intellectuel. Pardon, vous connaissez Romain Rolland. C'est un normalien agrégé d'histoire, passionné de musique et de littérature. Il gagne sa vie en écrivant. Alors, Stéphane est encore à ce moment-là un homme bien jeune, Romain Rolland lui a près de 20 ans de plus, et d'autant qu'il fait plus que son âge, il est maigre, faut l'imaginer, un petit peu voûté comme ça, blanc comme un linge. Zweig adore lui rendre visite dans sa petite chambre près du boulevard du Montparnasse, un appartement d'une seule pièce sombre, sous les toits où Romain Rolland vit seul avec ses livres et son piano. Il y passe des heures assis à sa table, une couverture sur les genoux, et Zweig écrira: il y a dans cette pièce quelque chose de monacal, mais on sent à la foule des lettres, des journaux, que le monde entier afflue ici en un centre ouvert à tout. Oh, ce n'est qu'un début. Vous allez voir la tournure que les choses vont prendre pendant le cours de la guerre. Ce que découvre Zweig auprès de Romain Rolland, ce n'est pas seulement une amitié très forte, mais c'est aussi le partage d'une véritable conviction qui est l'humanité, si je puis dire, à la veille de la Première Guerre mondiale. Romain Rolland explique à son jeune ami qu'il pense que l'avenir de la paix se trouve dans l'avenir de l'Europe, dans l'amitié franco-allemande. Vous imaginez bien que ce genre d'idée ne va pas résister longtemps à la déclaration de la guerre de 14. Je cite Bertrand d'Hermoncourt dans la préface qu'il donne à des textes inédits de Stefan Zweig sur la Première Guerre mondiale, des textes parus il y a peu chez Robert Laffont. Lorsque l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie le 28 juillet 1914, Stefan Zweig se trouve au Coq-sur-Mer entre Ostende et Blankenberg en Belgique. Il ne croit pas au conflit. Dans ses mémoires, Le Monde d'hier, il se souvient d'avoir ironisé sur les préparatifs de guerre belges. Il voit pourtant s'accumuler les mauvaises nouvelles de plus en plus alarmantes colportées par les journaux. Mais il lui paraît, je cite, totalement absurde au moment où des milliers et des dizaines de milliers d'Allemands détendus et joyeux jouissaient ici de l'hospitalité de ce petit pays neutre qu'une armée prête à l'envahir se tint à la frontière. Fin de citation. Viennent ensuite les jours critiques où, à chaque heure, une nouvelle information en dément une autre, nous dit Bertrand d'Hermoncourt. On sentait que la situation devenait sérieuse, explique Zweig dans Le Monde d'hier. D'un seul coup, le vent froid de l'angoisse souffla sur la plage, la balaya et la vida. Par milliers, les Allemands quittèrent les hôtels, prirent les trains d'assaut et même les plus crédules commençaient maintenant à plier bagages. Moi aussi, je m'assurais un billet dès que j'appris la nouvelle de la déclaration de guerre de l'Autriche à la Serbie. Il n'était que temps. Et voilà Zweig qui donc va prendre le dernier train qui part de la Belgique pour l'Allemagne. Et en chemin, il perçoit l'avancée de cette armée allemande qui est en marche et qui est en marche vers la Belgique et qui va envahir la Belgique, bien sûr. Voici ce qu'on peut lire sous la plume de Zweig. Au tout début de la guerre, nous sommes là le 6 août 1914. Et là, vous allez être surpris à mon avis. Des deux points, sur sa droite et sur sa gauche, l'Allemagne doit à présent frapper pour s'arracher au double étau de ses opposants. Chaque muscle de la splendide énergie de son peuple est bandé à l'extrême. Chaque nerf de sa volonté tremble de courage et de confiance. Fortifié par plus de 40 fécondes années de paix, mais nullement amolli par elle, l'armée d'airain, par la constante conscience de la proximité de l'ennemi, et préparée à chaque minute de toutes ses armées de paix à la guerre par cette gravité avisée de la prudence qui constitue le trait de caractère le plus précieux de l'âme allemande, elle s'engage à nos côtés dans la fraternité du glaive. Le voyage amical s'est mué en unité. Le sort de l'Allemagne est indissociablement soudé au nôtre c'est-à-dire au sort de l'Autriche, vous l'avez bien compris, en cette heure brûlante, écrit Zweig. Et chaque pensée, fût-elle d'inquiétude ou d'espérance, qui en Autriche à présent prendrait en compte uniquement notre destinée et non aussi celle de l'Allemagne, serait acte de déloyauté comparé à une grande loyauté et d'un égoïsme dangereux. Voyez que les choses sont en train de se préciser. Et bien sûr que dans les premiers temps, comme tout le monde, si je puis dire, Stefan Zweig est parfaitement dans l'onde patriotique du moment. Il s'engage comme volontaire, il doit faire ses classes à Klosterneuburg, au moment où la bataille de France est en train de commencer. On pense que tout ça ne va pas durer longtemps, n'est-ce pas ? Évidemment, Zweig continue néanmoins à entretenir des relations avec ses amis à l'étranger. Il choisit cependant de ne plus écrire et souhaite plutôt agir, nous dit Bertrand d'Hermoncourt. Réformé, il ne peut être envoyé au front comme il l'aurait souhaité afin d'échapper à sa condition privilégiée d'homme de lettres. Il vit au rythme des nouvelles du front, du ralliement d'anciens amis au bellicisme comme Émile Verhaeren, des polémiques sur les dégâts collatéraux commis par les armées en campagne. Tout cela est de nature à le plonger au fil des événements dans un profond scepticisme. « Ce sont des jours d'épreuve », lui écrit Romain Rolland de Genève le 12 novembre 1914. « Ce sont des temps héroïques pour les hommes comme pour nous. Que deviendra le monde après qu'auront passé ces cyclones de haine? Que restera-t-il de notre Europe? Je ne sais, en dehors de nous, mais je sais qu'il restera nous et qu'il s'agit de sauver en nous l'esprit européen. Ce n'est pas assez dire. » L'esprit universel. À la fin de 1914, Zweig est affecté au service littéraire de l'armée. Il est envoyé dans des bureaux des archives du ministère autrichien de la guerre à Vienne. Et il constate dans son journal une stagnation des sentiments. Les choses sont en train de commencer à l'inquiéter. Et l'on peut dire que d'ores et déjà, le bel enthousiasme des débuts a cédé la place à autre chose. On peut dire que bientôt, les erreurs de la guerre vont agir en profondeur sur la sensibilité tellement aiguë de cet observateur qui voudrait à présent voir une chose plus que n'importe quelle autre, qui voudrait voir finir le cataclysme. Un extrait du final de la symphonie numéro 1, Titan de Gustav Mahler. L'orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam était placé sous la direction idéale de Leonard Bernstein.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Seuls les vivants créent le monde, c'est le titre donné à ce recueil de textes inédits, des textes inédits écrits par Stefan Zweig pendant toute la durée de la Grande Guerre et qui nous montre de manière spectaculaire, mais aussi, comme toujours avec lui, de manière nuancée et très, très subtile, l'évolution des sentiments de l'auteur viennois face au grand conflit mondial. Le 31 août 1915, Zweig est de retour d'un voyage en Galicie. Vous voyez, la Galicie est cette province à cheval sur l'actuelle Pologne et l'actuelle Ukraine. Et là, véritablement, il a vu l'horreur et je le cite. Beaucoup ont décrit les maisons mises à sac, les cratères de nos tirs de mortier, les trouées d'incendie laissées par le repli russe, le tourment et la détresse des hommes effrayés déportés qu'une tornade avait arrachés à leur toit et à leurs droits. Beaucoup les ont décrits et quiconque a parcouru ce chemin de croix ne saurait fermer son cœur à cette misère manifeste. Mais pour ma part, je ne peux que me remémorer ce qui ici a par-dessus tout forcé mon étonnement admiratif, ce qui a été pour moi l'expérience la plus profonde et la plus riche d'enseignement, le fait que même la chose la plus effroyable est impuissante face à la volonté créatrice d'un peuple, qu'au contraire le feu et l'acier, la détresse et l'abattement ne font qu'embraser encore plus vivement et intensément l'énergie vitale de l'individu comme de la communauté. Car nulle part encore, je n'ai aussi fortement ressenti la puissance de la vie, l'invincibilité de toute chose terrestre qu'en cette pérégrination galicienne à travers les décombres et les cendres. Il l'écrit plus tard pour préciser à la fin de cet article assez extraordinaire, sur la convalescence de la Galicie, il écrit « D'autres n'ont peut-être ressenti ici que la grisaille de la destruction, mais pour ma part, j'ai pris de plus en plus fortement conscience en ces lieux que dans la profondeur de la souffrance habitent certaines forces de vie qui n'est comparable à rien d'autre sur Terre. Une ivresse de la reconstruction, une intensification de la volonté intérieure qui ne connaît pas la journée ordinaire. Je croyais que rien ne pouvait dépasser en puissance la guerre, mais j'ai bientôt senti que l'énergie qui en vient à bout est plus puissante encore. » Transformation à l'œuvre dans les replis de la conscience du grand auteur. 2 ans de guerre vont passer et en novembre 1917, Zweig, qui maintenant est débarrassé de l'uniforme, est devenu clairement, purement et simplement, pacifiste. Il rejoint à Londres Romain Rolland et ses amis, raconte Bertrand d'Hermoncourt, décidé à développer une commune pensée internationaliste et à dénoncer les mensonges au service de la guerre. Il prend peu à peu le rôle de guide spirituel pour l'Europe en signant des articles, des manifestes, des lettres ouvertes et des critiques où il cherche à résister au bourrage de crâne qui s'exerce sans relâche sur les consciences individuelles. Parmi ces textes militants, car maintenant, vers la fin de la guerre, et plus on s'approche de la fin de la guerre, et plus le militantisme est extraordinaire, il y a cet éloge du défaitisme qui est assez saisissant, il faut bien le dire, et même, pourquoi ne pas le dire, assez stupéfiant. Je cite de nouveau Stéphane Zweig, c'est le même qui, au début, nous disait qu'il fallait partir au combat la fleur au fusil, rappelez-vous. Faisons nôtre, écrit-il, comme le firent jadis les gueux. L'injure de nos ennemis. Faisons notre fierté de ce qui pour eux est un outrage, de ce qu'ils méprisent, notre honneur. Prenons ouvertement le nom de défaitiste. Montrons-nous unis dans le défaitisme. Soyons capitulars. Et alors là, il écrit en français, soyons défaitistes. Et en italien, siamo disfatisti. Donnons à ce mot notre signification. La manière dont nous l'entendons, portons-le comme une arme et levons-le haut qu'il chatoie et resplendisse contre l'ire de nos Siegfried nationaux. Vous imaginez l'incroyable déclaration de Stefan Zweig.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
On comprend à la lecture de ces textes à la fin de la guerre que certains de ses amis lui aient tourné le dos. Pas Romain Rolland, bien sûr, qui demeure fidèle au jeune écrivain. Aux yeux de Zweig, l'amitié avec Rolland est comme une colombe blanche sortie de l'arche de la bestialité hurlante. Zweig, vous l'avez compris, prêche maintenant la paix. Il la prêche à Zurich, à Genève, dans des conférences, dans des écrits de toutes sortes. Au lendemain de la guerre, il ira habiter à Salzbourg avec sa compagne, Friederike, mais il continue de se rendre régulièrement à Paris, où ses séjours, évidemment, ont pris une tonalité différente, puisque maintenant, les Français sursautent lorsqu'ils entendent son accent allemand. Certains le regardent comme un irréconciliable Bosch. Ah, s'ils savaient.
Vous écoutez Radio Classique.